Voilà, voilà. Bonjour à toutes celles et ceux qui nous écoutent. Article 25, c'est aujourd'hui, émission du 29-01-2025. Et à la régie, nous avons Cécile. Bonjour Cécile, merci d'être à la régie. Voilà. Donc, comme je l'ai dit à plusieurs reprises, donc, dans article 25, c'est d'abord du social. Bon, quelquefois la politique se met au milieu, hein, bon, mais on laisse un peu de ça de côté et on parle du social. Alors aujourd'hui, nous allons faire un peu d'histoire. Révolution industrielle, définition et histoire au 19e siècle. Voilà. Voilà. L'histoire donc a commencé en Grande-Bretagne dans la seconde moitié du siècle dernier, avec l'apparition de la machine à vapeur et la mécanisation donc de l'économie. Et il y a eu un certain Friedrich Engel, 1895 économique, et proche de Karl Marx, 1818, théoricien socialiste et un des premiers à parler de la révolution industrielle, en regroupant sous cette appellation les transformations sociales et économiques qui ont touché la Grande-Bretagne dès le milieu du XVIIIe siècle. S'étendant ensuite au reste de l'Europe, à commencer par la France, bien sûr, puis l'espace germanique, l'idée d'une révolution industrielle, c'est-à-dire d'un bouleversement soudain de tous les modes de production économique, qui engendrerait des transformations sociales, politiques, culturelles, épistémologiques, voire autres, est au cœur du débat du XIXe siècle. Bon, les historiens sont formidables. Formidable. Toutefois, les historiens sont de plus en plus partagés sur l'idée de la révolution industrielle. En effet, si de profondes mutations sont observables en Europe à cette période donc de l'histoire, la question est posée de savoir si ces mutations sont assez significatives et soudaines, pour parler bien sûr de révolution, qui bouleverserait tous les codes d'un seul coup. Voilà. De façon totalement brutale aux yeux d'économistes et historiens. Ben, c'était d'un historien qui s'appelle M. Nicolas Kraft, il me semble. L'idée de révolution industrielle est à relativiser les principaux changements qui touchent à l'époque. La Grande-Bretagne n'a lieu que dans le domaine de l'acier et du textile. Et la croissance n'apparaît pas fondamentalement affectée par ces transformations avant le milieu du XIXe siècle. Bon, d'autres historiens, comme les historiens Berg et Hudson, qui sont des historiens en même temps qui ne sont plus là, bien sûr, avancent que la révolution industrielle a bien eu lieu à cette époque-là. Là, de l'histoire, elle ne doit simplement pas être appréhendée uniquement, bon, dans son aspect dit économique, mais également d'un point de vue social et culturel. Voilà. Bon, l'économiste Walter Rostow, qui était un bon économiste, qui a disparu, il me semble, semble être un de ceux qui réalisent le mieux la synthèse entre ces deux thèses. À ses yeux, la société humaine traverse 5 états connus, jusqu'à ce que l'état traditionnel et l'état pré-take-off, le take-off, l'état de maturation et l'état de consommation de masse. Le take-off de Rostow correspondrait ici à la révolution industrielle, que l'on devrait donc analyser comme une continuité et non en rupture avec les siècles passés. Bon, toujours pareil, la révolution industrielle prend racine en Grande-Bretagne, hein, qui rassemblait certaines conditions fondamentales, hein, pour tout industrialisation. Depuis le XVIe siècle, mais plus encore, le XVIIe siècle, les États européens connaissent une première, bien que très timide, forme d'industrie. C'est ce que l'historien Coleman appelle la proto-industrialisation. Coleman décrit l'augmentation de la quantité de travail fournie par les masses paysannes, c'est-à-dire le peuple. Dès le XVIe siècle, dans toute l'Europe, et plus encore dans les régions protestantes, voire l'éthique protestante de Max Weber, le premier atelier d'artisans se met en place et s'organise. Des chartes royales leur sont régulièrement accordées pour les autoriser et tenter de les encadrer. Elles reposent sur un système commercial assez circulaire. Bon, des marchands vendent aux ateliers des matières premières, achètent le produit fini, puis le revendent, voilà, et ainsi de suite. En outre, une révolution économique précède la révolution industrielle, c'est la révolution agricole. dans le royaume de France de Louis XVI, bien sûr, des techniques potagères sont expérimentées partout dans le domaine royal, notamment en Île-de-France. La rotation quadriennale qui succède donc à la rotation triennale qui a révolutionné l'agriculture au Moyen-Âge est mise en place à cette époque. Dans la première moitié du XVIIe siècle, en Grande-Bretagne, les landors, grands propriétaires terriens de la noblesse, s'inspirent de ces techniques afin de moderniser leur domaine et de les rendre plus rentables. Voilà. Un peu de musique, s'il te plaît. Merci. Et je reprends l'émission rapidement. Merci Cécile. Merci beaucoup. Voilà, je continue donc l'émission sur le même thème. Après, il sera question d'autre chose. Des conditions favorables à la révolution industrielle. Bon, la Grande-Bretagne est un des terrains les plus favorables pour cette fameuse révolution. Depuis la glorieuse révolution de 1688-1689, l'Angleterre puis la Grande-Bretagne dès 1707 deviennent État libéral. Qui mène l'État en avant, pardon, l'émulation intellectuelle. Ainsi, des systèmes de brevets sont soumis en place au début du siècle afin de favoriser le progrès, de même que des concours d'innovation sont régulièrement organisés pour favoriser le progrès technique sur le modèle européen néerlandais. En outre, un historien qui s'appelait Joël Mocky a su pointer du doigt le fait que la concurrence entre les États européens les pousse à considérer le savoir comme un capital en tant que tel utile dans la compétition européenne. L'innovation par le biais de la concurrence devient alors soit un but en soi, soit la Grande-Bretagne semble avoir le système qui encourage le plus à l'époque, les libertés individuelles nécessaires à l'émulation intellectuelle sont préservées sur les îles britanniques, la liberté de la presse étant, par exemple, établie en 1695. Bon, en Angleterre. Hein. De même, toujours en Grande-Bretagne, la Grande-Bretagne connaît une véritable révolution financière. C'est au début du siècle, en 1694, la Banque d'Angleterre est créée sur le modèle néerlandais. L'idée est que l'État anglais puis britannique peut désormais investir dans sa propre économie, de ses propres innovations par un nouveau système d'actionnariat. En outre, après l'explosion d'une bulle financière basée sur l'économie coloniale, en 1720, le Parlement britannique vote le Bulb Act qui encadre réellement les activités des investisseurs et les protège. Bon, pour l'historien français, qui était M. François Crouzet, cette révolution la plus importante là, serait celle qui conditionnerait mieux toutes les révolutions économiques postérieures. Par ailleurs, la Grande-Bretagne dispose d'un empire colonial à l'époque, maintenant l'empire colonial c'est fini, qui est un immense avantage depuis le début du XVIIe siècle. En effet, l'Angleterre commence à coloniser l'Amérique du Nord et au cours du XVIIIe siècle, les colonies françaises, à la fois en Amérique et dans les Indes, sont progressivement accaparées par la Grande-Bretagne. Ainsi que 1756 à 1763 a eu la guerre de 7 ans, qui oppose entre autres la France et l'Angleterre. En 1757, les Britanniques triomphent des Français dans les Indes. À la bataille de Plassey, l'Empire britannique est élargi de cette nouvelle possession, mais aussi au Canada dès 1763. Bon, voilà. Bon, il y a encore eu un historien qui s'appelait Patrick O'Brien. C'est un protectionnisme agressif au sein de cet empire colonial qui permet à la Grande-Bretagne de mener à bien dans la révolution industrielle des principes et des lois, comme le principe de l'exclusif qui limite les importations et importations coloniales aux Britanniques. Voilà. Domine la plupart de ces colonies et permet à des ressources très importantes d'affluer vers l'Angleterre. Bon, voilà. Ça a été un peu le jeu de l'offre et de la demande. Ce take-off repose sur une interaction soutenue entre l'offre et la demande, compte tenu de l'existence de premiers surplus dus à la proto-industrialisation et à l'empire colonial britannique, mais surtout à la révolution agricole. Une demande existe. En effet, les travailleurs ayant accumulé des surplus de capitaux désirent consommer. L'historien, qui était un historien irlandais, Johan de Vries, parle d'une véritable révolution industrielle. Chez les Britanniques, dès le XVIIe siècle, qui serait la course de douce de cette hausse de la demande. Les paysans travaillent davantage dans l'artisanat, ce qui génère des premiers excédents et une augmentation des revenus moyens, qui s'accompagne d'une demande logique de biens et de consommation. Une demande d'emploi existe aussi dans les centres urbains. Les nouvelles techniques agricoles permettent de produire plus avec moins de main-d'œuvre. Voilà, c'est le début qu'on s'appelle donc de l'esclavage. Et voilà. Et j'en resterai là pour ces explications. Il est 14h12, je vais demander à Cécile de mettre un peu de musique et je reprends l'émission. Merci Cécile.
Sparks excitement in the boys, but the policemen look annoyed. Perhaps these are ones they should avoid. Got a chase last night from men with truncheons dressed in hats. I didn't do that much wrong, still ran away though for the laugh, just for the laugh. And please just stop talking, 'cause they won't find us if you do. Oh, those silly boys in blue, well they won't catch me and you. Have you been drinking, son? You don't look old enough to me. I'm sorry, officer, is there a certain age you're supposed to be? 'Cause nobody told me. And up rolls the riot van, and these lads just wind the coppers up. They ask why they don't catch proper crooks. They get their address and their names took, but they couldn't care less.
Thrown in the riot van. Merci. Voilà, je continue l'émission à peu près sur le même thème. Le bassin de Provence, quand je dis bassin de Provence, c'est bien sûr simplement le bassin minier de Provence, là où se trouvent les mineurs, quoi. Le bassin minier de Provence correspond à un territoire exploité pour son gisement de lignite, c'est-à-dire le charbon, pendant près de 3 siècles, industriellement depuis le début du XVIIIe siècle. Le gisement est situé dans les Bouches-du-Rhône, en région PACA, dans le sud-est de la France, principalement autour de Gardanne, entre Aix et en Provence et Marseille. L'exploitation minière a cessé totalement le 31 janvier 2003. Bon, voilà. La localisation, eh bien, le bassin de Provence se situe donc dans le département des Bouches-du-Rhône, en région Provence-Alpes, côte d'Azur, dans le sud-est de la France et non loin de la mer Méditerranée. Le territoire d'une superficie totale de 400 km² est limité au nord donc, par la Sainte-Victoire et les collines de la Fare, les Oliviers. Au sud, par la chaîne de l'Estac et celle de l'Étoile. À l'ouest, par le col de Saint-Maximin, la Sainte-Baume se prolonge à l'ouest jusque sous l'étang de Béarn. Les gisements houillers les plus proches sont les bassins houillers des Cévennes au nord-ouest et celui de Rairan à l'est. Bon, le charbon s'est formé au Crétacé supérieur et tertiaire. Ce gisement a produit plus de 80 millions de tonnes de charbon. Les ressources qui comportent du lignite noir, charbon sub-bitumineux et des matières intermédiaires entre houille et lignite sont supérieures à 50 millions de tonnes. Bon, il y a eu bien sûr la période artisanale. Il est difficile de dater précisément, avec certitude, le début de l'exploitation de ces fameuses lignites. Dans le bassin, les premières traces d'intérêt pour les mines, et plus particulièrement pour les mines de charbon, de pierre, apparaissent au milieu du XVe siècle, avec une autorisation de prospection dans le bassin de Fivaux en octobre 1443, Saint-Savournin. L'une des plus anciennes mentions d'exploitation de lignite date du 30 mars 1584 à Saint-Zacharie. À cette époque, l'extraction est faite de manière anarchique, les procédés sont rudimentaires et les conditions de travail archaïques, avec une extraction limitée aux affleurements visibles, et ce malgré les avantages que les propriétaires avaient pu mettre en place une exploitation, la production reste insignifiante pendant près de deux siècles et très dangereuse. Bon, il y a eu aussi la période industrielle. Les mines s'industrialisent au début du 19e siècle avec l'écrasement de puits verticaux et l'amélioration des techniques, comme pour la remontée. Le premier puits vertical d'une profondeur de 70 mètres est foncé, en 1820. Mais il faut attendre la fin des années 1830 et l'augmentation de l'installation des machines à vapeur qui servent à pomper les eaux souterraines et remonter le lignite. Pour voir prendre forme l'industrialisation du bassin, 35 charbonnages sont ainsi foncés de 1839 à 1945 et sont accompagnés de descentes de galeries légèrement inclinées. Malgré ces premiers signes de développement, au début des années 1840, l'envahissement des chantiers par les eaux reste un problème majeur. Bon, cet obstacle renforce l'idée de la mise en place d'une galerie en liaison avec la mer Méditerranée. Plusieurs possibilités sont étudiées alors, et après plusieurs projets présentés, la Société anonyme de charbonnage des Bouches-du-Rhône, voilà, reçoit le 21 mars 1889 la notification du décret d'utilité publique pour les travaux de la galerie de la mer. Bon, l'activité est relancée dans les années 1980 avec le creusement du puits Yvonne Moranda à Gardanne, d'un diamètre de 10 mètres et d'une profondeur de 11 900 mètres, il me semble. En fait c'est un chiffre qui n'est pas très clair. Bon. Et le puits Z qui atteint 879 mètres de fond. Le charbon est utilisé par la centrale de Gardanne actuellement. Mais maintenant, la centrale de Gardanne ne fonctionne plus au charbon maintenant. Je reviendrai de ces jours. L'exploitation minière a cessé totalement le 31 avril 2003 au puits Yvonne Moranda. Bon, les vestiges, la plupart des installations se démantelaient lors de l'après-mine, mais l'exploitation minière a laissé plusieurs vestiges au début du 21e siècle, ainsi que des terrils, des entrées de mines, des échevalements, des puits Yvonne Moranda, etc. Ainsi que des ruines et des entrées de mines, sécurisées, datées du 19e siècle, ainsi que des bâtiments industriels, des monuments à rendre hommage au passé minier. Voilà. Donc toutes ces mines-là ont été fermées par, pour des raisons non pas économiques, mais surtout pour des raisons politiques. Ça, la fermeture des mines a été une des raisons politiques et non pas autrement. Il est 14h19, je vais demander à Cécile de mettre un peu de musique et je reprends l'émission.
I'm a voodoo child, Lord, I'm a voodoo child. Skirts of infinity, and when he brought me back, he gave me Venus, which is rain.
Voilà. Je reprends le cours de l'émission, 14h23, encore 35 minutes d'antenne. Bon, j'ai parlé, comme ça s'appelle, donc, de pas mal de choses. Maintenant, nous allons voir ce qu'il en est après les mines. L'après des mines est le temps donc de l'évolution du site, du actif minier, après la cessation d'activité, incluant les conséquences immédiates et différées de divers ordres de cette fermeture. Socio-environnementaux économiques, par exemple, abordés en France par un rapport donc de la Cour des comptes. Dans de nombreux pays, dont la France, la fermeture d'un site minier doit être précédée d'une analyse des travaux consécutifs à l'existence de vieux travaux souterrains et la mise en place des mesures compensatoires destinées à réduire ces risques, mais jusque dans un passé récent, les activités minières souterraines surtout n'ont pas été faites selon les règles de l'art et procédures réglementaires aujourd'hui en vigueur. Parmi les risques difficiles à évaluer, mais pour lesquels les outils d'évaluation ont été développés, figurent des risques de contamination, des nappes donc phréatiques, d'inondations, de remontées de grisou, et des risques d'affaissement ou effondrement de miniers parfois spectaculaires et brutaux. Alors le grisou, Le grisou, ben, qu'est-ce que c'est grisou? On peut dire que le grisou, c'est, en fait, en définitive, c'est un coup de grisou, c'est une explosion. Voilà, en gros, c'est ça. C'est une poche de gaz qui est simulée dans un endroit quelconque, et au niveau de l'oxygène, ça prend feu, ça explose. En gros, c'est ça. Effondrement minier, parfois spectaculaire et brutaux, avec pas mal de, bien souvent, et beaucoup de décès. Jusqu'au 19e siècle, notamment donc aux États-Unis, bien sûr, après épuisement des filons, justement l'activité cessait brutalement, et sans soudain, souvent des villes fantômes, des installations à déchets abandonnés sur place. Or, ni la fermeture d'une mine, ni la renonciation d'un titre minier ne mettent fin aux risques physiques et environnementaux. Au contraire, les risques liés aux effondrements, remontées de nappes, inondations, pollution, risques pour la nappe, risques gaz, remontées de grisou, donc explosion, CO, CO2, radon et parfois H2O, mercure, gaz, etc., soufre, risques radiologiques et persisteront souvent dans le temps, pouvant même s'aggraver. Et puis les galeries abandonnées sont fréquemment de lieux de dangereuses émissions de gaz, je viens de le dire, des gaz inflammables, toxiques et ou d'ailleurs des oxygénés peuvent migrer vers la surface. Bon, à travers les anciennes infrastructures minières, puis galeries ou des fissures dans le recouvrement par exemple, sous les effets conjoints d'une remontée de nappe ou simplement de variations de la pression donc barométrique, il faut tenir compte de ça aussi. On observe aussi des variations saisonnières marquées, voire à titre d'exemple, un graphique présentant des taux de CO2 et de CH4 mesurés dans le sondage de compression de louche. Voilà. Ces gaz peuvent localement modifier la géochimie du sol et des nappes acidification par le CO2 et ou s'accumuler dans les caves, égouts, anciennes galeries, etc., ou divers volumes où l'explosion ou l'atmosphère est confinée. Est alors source de risques importants pour les personnes et les biens asphyxiés. Asphyxie ou explosion, suivant le cas. Pour le suivi de ce problème, je cherche à modéliser et mieux encore suivre le niveau de risque. Et si en France ou en 2005, CDF fermé en 2007 était encore titulaire de 200 concessions, dans la plupart desquelles l'exploitation a cessé. Depuis très longtemps. Les exploitations n'ayant pas été nationalisées en 1946 sont généralement retournées sous la responsabilité de l'État. Il convient également pour certaines d'entre elles de conduire aujourd'hui les études et les travaux de mise en sécurité qui s'imposent. Il existe aussi des risques juridiques. Ceci nécessite un processus de gestion du risque dans la plupart des pays. Une réglementation encadre la prémine avec un exemple en Europe. Les directives UE, directives déchets de l'industrie extractive. En France, le code minier, les règlements concernant les ICPE et des plans de prévention des risques minimums miniers. Propos mobilise des agences, des entreprises, des bureaux d'études, des collectivités et services techniques concernés qui peuvent s'appuyer sur des guides méthodologiques, sur les aléas de terrain et pollution environnement. Des visites de surveillance et d'éventuels travaux de mise en sécurité doivent être suivies dans le temps. Ceci a un coût anticipé théoriquement dans de nombreux pays. Les budgets doivent être aujourd'hui approvisionnés au moment du fonctionnement de la mine ou des carrières. C'est par exemple le cas aux États-Unis où la remise en état des mines exploitées avant 1977 impose aux exploitants de mines du charbon de contribuer à la prémine par une taxe de remise en état de 180 millions de dollars au début des années 2000. Voilà. Bon, en France, l'État français s'est progressivement désengagé de l'exploitation charbonnière, bien sûr. La rentabilité de l'exploitation et de la houille, en effet, subissait depuis les années 1960 une baisse constante sous le double effet de la diversification des sources d'énergie et de la concurrence de pays bénéficiant de conditions d'exploitation. Très favorables et moins onéreuses, les premières fermetures n'ont pas prévu de stratégie de gestion durable des risques miniers. À titre d'exemple, dans le bassin mosellan, donc en Moselle là-haut, 640 communes sont concernées. 13 000 puits ou issus de mines ont été recensés, dont 8 000 sont à peu près localisés en 2004. une base de données informatiques rassemble aujourd'hui donc des informations qui n'ont pas été perdues. Ensuite, associée à un système d'information géographique incluant des données d'hydrologie, de réservoirs naturels visant à mettre en perspective leur implication environnementale. Voilà. Bon, quelques chiffres maintenant. Loire en 1973, fermeture du puits Couriot, fin de l'activité autour de Saint-Étienne. En 1983, ferme de l'exploitation du puits Pigeau à la Récamarie, exploitation à ciel ouvert. Le Gard en 2001, la mine d'Alès dans le Gard, les ouvriers de bassin du centre du Midi. À Moselle, en Isère, en Saône, en Provence, le 1er février 2003, la mine de Gardanne est arrêtée. En Lorraine, le 23 avril 2004, également. Du bassin de Lorraine, c'est son activité afin de réhabiliter le site. Les chevalements des puits 3 et 4 sont rasés, les puits bétonnés et les galeries noyées. Bon, en France, l'État a confié à l'INERIS sa mission d'évaluer des risques de miniers, par exemple de combustion, d'effondrement minier, de remontée, de grisou et radon, à la surface et de produire des méthodologies d'évaluation et de suivi. Voilà, et j'en resterai là. 14h30, je vais demander à Cécile de mettre un peu de musique et je reprends l'émission. Voilà, je reprends le cours de l'émission pour 20 minutes. Je m'excuse, j'avoue qu'il est un peu enroué. Voilà. Maintenant, parlons un peu social. Activité sur chiffre du chômage, donc de l'année dernière. Nous allons voir ce qu'il y en a exactement. Voilà. Emploi, donc le chômage en hausse de 3,9% au dernier trimestre 2024. La plus forte augmentation au Covid depuis 10 ans. Bon, chômage, une hausse alarmante de près de 4% en 2024. Fin 2024. Chômage, nombre d'emplois de catégorie en hausse, près de 4% au niveau de trimestre 84. Le chômage a fortement augmenté en Auvergne en 2024 également. Voilà. Hausse préoccupante du chômage, eh bien, nous allons voir ça. Hausse préoccupante. Voilà. Et nous faisons un petit tour en Bourgogne. Le quatrième trimestre de 2024 marque une aggravation notable de la situation de l'emploi en Bourgogne à Franche-Comté. Bon, j'ai pris Franche-Comté, Bourgogne, enfin, en définitive, le nombre de demandeurs d'emploi est sensiblement toujours le même. Selon des chiffres publiés, le nombre de demandeurs d'emploi, toutes catégories confondues, est en hausse par rapport au trimestre précédent et sur l'année. Cette tendance, bien que conforme à la moyenne nationale, masque des disparités importantes selon les départements, les tranches d'âge et les motifs description, décryptage détaillé d'une situation économique et sociale qui interpelle. Les motifs description, décryptage détaillé d'une situation économique. Une hausse généralisée des demandeurs d'emploi en catégorie A, toujours en région Bourgogne. La région Bourgogne-Franche-Comté comptait en moyenne 16 230 chômeurs d'emploi sans aucune activité en catégorie A au quatrième trimestre 2024. Ce chiffre traduit une augmentation de 4,0% sur le trimestre de plus 4. Plus 4 000 personnes et de 5,7% sur un an. Cette dynamique s'inscrit dans une tendance nationale où le nombre de demandeurs d'emploi en catégorie A a également progressé. Catégorie A baissée, l'ensemble des inscrits en hausse. Bon, si l'on inclut les demandeurs d'emploi et exercer une activité réduite à catégorie A, B, C, le total atteint un chiffre astronomique, 199 740 personnes dans la région, en hausse de 1,9% sur le trimestre, plus 3, 730 personnes et de 2,0% sur un an. Bon, ces chiffres témoignent d'une fragilité croissante du marché du travail dans la région avec des difficultés d'accès, des emplois stables et durables. Bon, maintenant, effectivement, on peut aussi s'adresser, voir un peu ce qu'il en est au niveau du département des Bouches-du-Rhône. Nous allons voir ce qu'il en est exactement. Un peu de musique, s'il te plaît, je reprends l'émission.
To increase finance. Eyes follow sky high. Send that boy off to die. Oh, make me wanna holler the way they do in my life. Yeah, make me wanna holler the way they do in my life.
Thinks we're all the mother. Who are they to judge us?
Mother, mother,
simply call us we wear our hair long.
The mother.
Voilà. Je reprends le pour quelques minutes encore. Le chômage des jeunes, je n'en ai pas parlé, je vais en parler maintenant. Le chômage des jeunes et le fait que les personnes âgées de 15 à 24 ans qui cherchent un emploi n'en trouvent pas. Le taux de chômage des jeunes est nettement supérieur à celui du reste, donc de la population. En 2022, il atteint 17,3% en moyenne sur l'année chez les jeunes, contre 6,6% chez les 25-49 ans et 52% chez les 50 ans ou plus. Les jeunes peuvent percevoir des allocations si remplissent les conditions générales au chômage. Donc il faut effectivement avoir pas mal de points effectivement pour toucher les assurances chômage. le chômage en force hausse. Voilà. Le chômage en forte. J'ai un petit souci informatique, je m'en excuse. Voilà, j'ai un petit souci informatique, là je reprends ça. Bon. Je suis navré. Voilà, je m'excuse pour le blanc, mais ça a été, j'ai eu une coupure informatique. Bon, le chômage en force hausse, en 2024, les jeunes en première ligne. En moyenne, au quatrième trimestre 2024, le nombre de personnes inscrites à France Travail est tenu de rechercher un emploi. Catégorie A, B, C s'établit à 52 800 en France métropolitaine. Il augmente de 8,5% pour les moins de 25 ans. Voilà. La situation de l'emploi s'est sensiblement dégradée au quatrième trimestre 2024, selon les dernières statistiques de la DARES. Issu du ministère du Travail. En France métropolitaine, le nombre de personnes inscrites à France Travail est tenu de rechercher un emploi catégorie A, B et C, s'établit à un chiffre astronomique. Voilà. Dans le détail, en France métropolitaine, le nombre de demandeurs d'emploi est en catégorie A, a augmenté de 4%. Voilà, cela fait beaucoup de nombre de personnes au chômage. Hein. Bon, en prenant en compte l'ensemble des territoires d'outre-mer, hors Mayotte, bien sûr, le nombre de demandeurs d'emploi de catégorie A s'élève à un chiffre encore astronomique à 338 800, augmentant de 3,9% sur le quatrième trimestre, sur un an, pour les catégories A, B et C. Voilà. Le chômage des hausses, les jeunes en hausse, concernant la catégorie A, le nombre moyen de demandeurs d'emploi augmente de 3,9% pour les hommes, plus 4,2% sur un an, et de 4,2% pour les femmes. Voilà. À noter aussi que le nombre moyen de demandeurs d'emploi inscrits en catégorie A et B est depuis un an ou plus augmente de 1,1% sur un an, et celui des inscrits depuis moins d'un an. L'ancienneté moyenne des demandeurs d'emploi dans les trois premières catégories est de 619 jours au quatrième trimestre 2024. Voilà. C'était un petit rappel sur le chômage donc, en France. Voilà. Je vais demander à Cécile de mettre un peu de musique et je reprends l'émission pour quelques minutes.
Knows no shame, nothing for your joy and pain, but I'll be loving you always. Yesterday I know I'm living, but tomorrow could make me the past, for that I mustn't fear, for I'll know deep in my mind the love of me I've left behind, 'cause I'll be loving you
until the day and night becomes our day.
Always.
Until the dream.
Maintenant, voyons un peu ce qu'il en est pour la sécurité sociale. Au 1er janvier 2025, donc dans quelques jours, changement, nouvelles mesures. Alors, ce qui change au 1er janvier 2025, eh bien, nous allons le voir. Revalorisation des prestations sociales, évolution des services publics, de la petite enfance, retrouver toutes les mesures et changement en vigueur à partir du 1er janvier 2025. Alors, sécurité sociale, le plafond de la sécurité sociale constitue la limite au-delà de laquelle les rémunérations ne sont plus prises en compte pour le calcul de certaines cotisations ni dans la base de calcul de certaines prestations. En 2025, la valeur mensuelle du plafond de la sécurité sociale augmentera de 1,6% et s'établira à 3 925 euros en valeur mensuelle et à 47 100 euros en valeur annuelle. Famille et enfance, services publics de la petite enfance, ça c'est important. Nouvelles compétences pour les communes. À partir du 1er janvier 2025, la loi du 18 décembre 2023 pour le plein emploi confie aux communes le rôle d'autorité organisatrice de l'accueil de jeunes enfants. Elles ont désormais la charge de bâtir une politique répondant aux besoins des enfants, des familles de leur territoire. L'article 17 des compétences obligatoires que doivent exercer les nouvelles autorités organisatrices en matière d'accueil des jeunes enfants en fonction de leur taille. À partir du 1er janvier 2025, toujours pareil, toutes les communes doivent recenser les besoins des enfants âgés de moins de 3 ans et de leur famille en matière de services aux familles et de modes d'accueil, ainsi qu'informer et accompagner les familles et les futurs parents dans leur parentalité. Dans la recherche de modes d'accueil, les communes de plus de 3 500 habitants devront également planifier le développement des modes d'accueil et veiller à leur qualité, notamment à travers la diffusion et l'appropriation du référentiel qualifié. Bon, ces compétences peuvent être transférées à l'établissement public de coopération internationale, intercommunale, pardon, EPCI, ou bien au Seigneur. Bon, revalorisation des plafonds de ressources des prestations familiales, et conformément à la législation applicable aux prestations familiales, les montants des plafonds de ressources des prestations familiales applicables à Métropole, dans les Drômes, à Mayotte et à Saint-Martin, Saint-Barthélemy et à Saint-Pierre-et-Miquelon seront valorisés de 4,4% à compter du début de 2025. La revalorisation de l'assurance veuvage en cas de décès, voilà, ça c'est gay. L'allocation veuvage est revalorisée de 2,2%, de sorte que le montant maximal de cette allocation est porté à 7 713,17 € mensuels, plafond de ressources trimestrielles à 274 375 euros. Et il faut quand même savoir une chose, que pour toucher une revalorisation de l'assurance chômage, donc cas de décès, il faut être marié. Si on n'est pas marié, eh bien aucune revalorisation ne pourra se faire. Extension de l'accompagnement rénové à tous les bénéficiaires du RSA. La loi Plein Emploi prévoit la généralisation des nouvelles modalités d'accompagnement des allocataires du RSA à partir donc de l'année. Ainsi, dès le début d'année, tous les bénéficiaires du RSA seront inscrits à France Travail et pourront bénéficier de nouveaux parcours d'accompagnement intensif et personnalisé pour les aider dans la construction d'un projet professionnel. Mais actuellement, les projets professionnels sont un peu... il n'y en a pas beaucoup. Avec notamment la signature d'un contrat d'engagement. Les personnes âgées, revalorisation des pensions d'assurance de vieillesse. Les pensions de retraite de droit propre et de droit dérivé des régimes de base, y compris les régimes dits intégrés et de régimes complémentaires, des indépendants, ainsi que leur majoration minimum contributif et minimum de réversion, sont revalorisés à 2,2%. Les cotisations et les rémunérations ayant donné lieu à un versement de cotisation jusqu'au 31 décembre 2024 servant de base au calcul des pensions de vieillesse et dont l'entrée en jouissance est postérieure à cette même date sont également revalorisées de 2,2%. Voilà. Revalorisation de l'allocation de solidarité aux personnes âgées, voilà. Personnes en situation de handicap, revalorisation du montant minimum des pensions d'invalidité, etc., etc., etc. Bon, tout ceci, vous le trouverez très rapidement sur Internet. Voilà, il est 14h54, il est temps pour moi de rendre l'antenne. Je vous remercie de votre écoute. J'ai la voix qui s'est un peu enrouée, je m'en excuse. Et je vous dis à très bientôt sur Radio Galère. Bon après-midi à toutes et à tous.